Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Camille Landais.
Bonjour.
Bienvenue plus près de micro, Camille, président du Conseil d'analyse économique, Ludovic Subran, bonjour.
Bonjour.
Chef économiste d'Allianz, c'est Jean-Marc Vittori, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Éditorialiste aux Échos. Le CAE travaille sur quoi en ce moment, Camille Landais?
Voilà, on travaille sur tellement de choses. On travaille sur la trajectoire des finances publiques, on travaille sur beaucoup de sujets liés à la transition écologique. On travaille aussi sur les questions d'union des marchés de capitaux avec nos confrères allemands.
Donc le programme du jour est taillé sans mesure.
C'est incroyable.
Il est taillé sur mesure. J'avais été séduit par la note que vous aviez publiée sur le diagnostic de performance énergétique. Je ne vais pas refaire l'histoire ici. C'est une façon de regarder le sujet tout à fait inattendue. Mais allons-y. Je donne les éléments d'information basiques et je vous fais réagir, Camille Landais. Le FMI a donc publié son rapport annuel sur les finances publiques françaises à 8 jours du verdict de Standard & Poor's sur la croissance. Il prévoit 0,8 cette année, là au Bercy dit 1. Et 1,3 en 2025, là où Bercy dit 1,4. Sur le déficit 2027, il dit 4,5, là où Bercy dit 2,9. Et pour cette année, 5,3, là où Bercy dit 5,1. Et donc il émet des cibles, enfin des solutions pour essayer d'accélérer la baisse du déficit. Couper des aides aux entreprises, tailler des niches fiscales, c'est pas très très loin d'une hausse d'impôts. Non. Et baisser les dépenses des collectivités, baisser les effectifs de la fonction publique. Et il est formel, si vous voulez de toute façon y parvenir, vous ne pouvez plus utiliser la corde fiscale, vos impôts sont déjà trop élevés. Que vous inspire cette note, Camille?
Je pense que le premier point qu'il faut voir, c'est d'où vient le FMI. Et le FMI, comme d'autres grandes institutions économiques, est un peu curieux de bien comprendre les hypothèses qui se cachent derrière le fameux plan de stabilité, le PSTAB.
Le PSTAB 2027.
Voilà, qui fixe une trajectoire pour les finances publiques. Comme tout plan de stabilité, on est obligé d'y faire un certain nombre d'hypothèses. Et il y a, je dirais, deux ou trois hypothèses qui sont assez optimistes, on va pas se mentir.
Dans le programme de stabilité
Dans le programme de stabilité et qui joue du coup énormément sur notre capacité à faire une consolidation qui n'envoie pas la France en récession. C'est quoi ces hypothèses? La première, c'est qu'on part avec ce que les économistes appellent un output gap, c'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui on serait en retard par rapport à notre croissance potentielle et de manière assez naturelle, quand il y a un output gap comme ça, la croissance va avoir tendance à être forte pour rattraper la croissance potentielle. Okay. Et donc ça veut dire que on a, à travers cette fermeture de l'output gap, déjà un gain de croissance un peu acquis à travers cette hypothèse. Les deux autres hypothèses qui sont un peu clés, c'est celle sur ce qu'on appelle les multiplicateurs, c'est-à-dire quand vous allez faire changer la dépense publique, de comment ça va affecter l'activité. Ok, c'est vrai que les hypothèses qui sont prises là-dessus sont quand même assez conservatrices du point de vue de la littérature actuelle. C'est-à-dire que on va baisser énormément la dépense publique.
Plus 20 milliards,
et qu'on va avoir un effet sur la croissance qui est relativement limité par rapport à ce que la plupart des économistes auraient assumé. Donc tout ça. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un tout petit danger à vouloir être trop optimiste sur un certain nombre d'hypothèses qui permettent évidemment d'afficher qu'on est capable de faire une consolidation qui est assez dure, mais qui ne devrait pas nous envoyer dans le décor, à la fois du point de vue de la croissance du PIB, et donc du coup, du point de vue de la stabilisation de notre dette dans le PIB, et aussi du coup, du point de vue de l'acceptabilité sociale de ces mesures. Et voilà, il faut garder en tête que c'est effectivement trop optimiste et qu'on se retrouve dans un cas qui est moins bon que celui-là, on peut du coup douter de la capacité à avoir une consolidation aussi rapide Et donc voilà, je pense que c'est ça que dit le FMI d'une certaine manière. Il dit, vous êtes peut-être un tout petit peu optimiste. Et donc,
il y a un peu comme le Haut Conseil des Finances Publiques. Hein.
C'est exactement le même message.
C'est le même message, hein, crédibilité, cohérence.
Potentielle et élasticité, sur les deux points clés qu'a évoqué Camille, hein, sur la croissance potentielle de la France dans les prochaines années et sur l'élasticité, c'est-à-dire l'impact des mesures de consolidation budgétaire sur la croissance. C'était exactement les deux remarques principales que faisait le Conseil de la stabilité, le Conseil des finances publiques,
oui,
pardon,
au Conseil des finances
sur les prévisions.
On peut difficilement imaginer qu'avec des montants inédits de 20 milliards, plus 20 milliards, et d'ailleurs si on suit les recommandations de la Cour des comptes, ce seront les mêmes 20 milliards en 2027, on peut difficilement imaginer qu'on n'aura pas, à propos justement des effets multiplicateurs, qu'on n'aura pas un effet récessif. Les montants sont... On n'a pas d'effet récessif à 2, 3, 4 milliards, mais à 20, plus 20, plus 20, plus 20. Même lecture.
Nous, on n'a pas les mêmes prévisions de croissance et les mêmes prévisions de déficit public, oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire que, en effet, trois années consécutives où on baisse de un point chaque année le déficit, d'un point de PIB chaque année le déficit, si ça ne coûte pas au moins un demi, voire trois quarts de point de croissance chaque année, c'est qu'il y a un problème. Et donc, vu ce qu'on a comme croissance dans le tuyau dans la France, en France, ça fait pas beaucoup de croissance qui reste. Donc c'est vrai que ça tient pas, mais je veux dire, c'est un moment très politique. Le FMI sort maintenant, il y a S&P, on a eu une autre agence, on a ce tunnel là de 3 mois compliqué avec la Commission européenne qui va faire des analyses de trajectoire de dette. Vous savez, on envoie notre plan, il nous renvoie quelque chose.
Oh oui,
on a la liste de déficits excessifs qui nous pend au nez pendant l'été. Tout ça pendant un moment un peu Commission Frankenstein, puisqu'ils sont un peu en campagne. Non mais c'est vrai.
Non, c'est très bon la formule.
Non mais c'est hyper important de comprendre ça, parce que on peut critiquer le gouvernement pour alors la Cour dit pas l'insincérité cette fois-ci.
Ils sont pas allés jusque là.
C'est vrai que ça sent quand même les calculs de comptable un peu mal foutus. C'est vrai que c'est un moment compliqué, mais pour beaucoup d'États. Enfin, moi, j'étais en Espagne hier, j'étais en Italie la semaine d'avant. Ça sent quand même très mauvais partout. Hein. En Italie, elle a quand même utilisé 100 milliards pour faire de l'évasion fiscale sur la rénovation des bâtiments, qui n'est pas de la rénovation. Hein. Le Superbono, c'est quand même le plus gros contributeur au PIB italien depuis maintenant presque 3 trimestres.
Donc, c'est quoi le Superbono, qu'est-ce que c'est ?
C'est 100 milliards qui sont censés être dépensés. C'est de l'argent européen, d'ailleurs.
Oui, c'est de l'argent européen, oui.
Qui sont censés être dépensés pour de la rénovation énergétique des bâtiments. Parce que, en fait, personne ne va vérifier que c'est rénové. Et donc, ça a été utilisé, en gros, pour faire de la construction et pour défiscaliser des travaux. En gros, c'est ça. Oui. 100 milliards. C'est 100 milliards, c'est beaucoup d'argent.
Oui, c'est beaucoup d'argent. Oui.
Ils ont plus de 7 points de déficit public. Donc, je veux dire, la situation de la France et la trajectoire de finances publiques n'est pas jojo. Mais les autres pays, c'est pas beaucoup mieux. En Espagne, par exemple, ils ont eu énormément de recettes du PIB et des cotisations sociales. Donc, du coup, ils ont que 3,2% de déficit. Mais en fait, la question, c'est la suite. C'est comment ils arrivent, en fait, à rester dans cet ordre de grandeur-là, quand eux aussi, ils ont une pression sur les dépenses qui sont compliquées, parce que pour le coup, ils ont beaucoup plus baissé leurs dépenses depuis 10 ans. Donc, juste pour les solutions du FMI, l'accord fiscal, les histoires de désindexation de LR, etc. C'est le concours Lépine, c'est la France. Donc chacun y va avec sa petite notion de fiscalité un peu sur le coin de table. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce qu'il faudrait en tous les cas aujourd'hui, c'est au-delà du PESTAB, dont on peut critiquer les hypothèses.
Programme de stabilité.
Ça serait intéressant d'avoir en fait un plan ou une feuille de route, parce que là. Plus le gouvernement
FMI
attend.
Dit c'est pas renseigné
exactement
d'économie.
Et donc en fait ce qui
exactement.
Manque
exactement encore comme le Conseil
ce qui manque alors est-ce publiques. Que c'est peut-être une temporalité électorale mais ce qui manque là pour éviter le concours Lépine de tous les députés en manque de visibilité sur des solutions plus débiles les unes que les autres hein, parce que là vous citez celle de la désindexation, c'est quand même profondément débile, c'est-à-dire que les gens qui ont des minimums sociaux, vous voulez ne pas les revaloriser sur l'inflation, c'est-à-dire vous créez de la pauvreté alors qu'à côté vous avez quand même de l'argent qui a été donné à des entreprises qui n'en ont plus besoin. Je parle notamment des PGE qui ne sont pas encore totalement remboursés, qui pourraient l'être. Donc, il y a quand même un côté très dogmatique aux solutions. Moi, ce que je pense qu'il pourrait occuper l'espace...
Ce n'est pas des solutions de merci, attention. Hein, c'est
mon point.
Politique.
Mon voilà. point, pour éviter que ce soit la foire d'empoigne, c'est qu'on ait justement un atterrissage de ce PESTAB. C'est-à-dire que là, on a une petite fenêtre pour essayer de proposer, le président ou le gouvernement ou le ministre des Finances, etc., pourrait proposer des choses qui sont un peu cadrantes comme il a fait avant, hein, en disant je n'augmenterai pas les impôts. C'est très cadrant, et donc du coup, on regardait ce qui pouvait être fait après. Ouais. Là, je pense qu'on a besoin de ça, là, maintenant.
Mais
pour éviter que ce soit politisé.
Mais ils ne savent absolument pas où on va. Non.
Parce qu'ils sont bien meilleurs que ce qu'on croit.
On sort un décret à 10 milliards et après on nous sort 10 milliards de plus, quoi, même pas un mois plus tard, à peine l'hiver terminé. Tout ça, c'est pas correctement renseigné. On va aller chercher sur les 10 milliards, 5 milliards de crédits de réserve. Vous savez, l'argent qui est de côté en cas de coup dur. Mais il y avait déjà des crédits de réserve qui étaient gelés dans les 10 premiers milliards. Il y a un moment.
Je peux vous dire par exemple que la trésorerie des agences publiques, c'est au moins 15 milliards. Et ça, c'est documenté, c'est su.
La trésorerie des agences publiques.
Ouais. C'est-à-dire que les trésors, comme toutes les entreprises françaises, les agences publiques ont aussi accumulé de la trésorerie parce qu'elles ont eu beaucoup moins de coûts en 2022 et 2021, etc. Et donc, il y a peut-être moyen de baisser ces niveaux de trésorerie. Parce que je ne sais pas si Pôle emploi, ou je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, France Travail, a besoin d'avoir, je ne sais plus, 8 milliards de trésorerie.
Ils ont 8 milliards de trésorerie.
Ouais, je ne sais pas s'ils en ont besoin.
En tout cas, si c'est possible en 2024, comme s'il faut réitérer l'histoire en 25, en 26, en 27, il y a un moment,
non,
les trésoriers seront exsangues.
En fait, on découvre un peu le poteau rose un peu tard.
Jean-Marc et Camille Landais, parce que là,
juste,
le truc...
Il y a un vrai choix à faire, hein, qui est, est-ce qu'on va plutôt du côté de la dépense publique ou est-ce qu'on va plutôt du côté de l'impôt? Alors, on a tous en tête ce qui s'est passé il y a un peu plus de 10 ans, hein, pendant la crise de la zone euro. À la sortie de la crise de la zone euro, les pays européens ont voulu rétablir leurs finances publiques trop vite, hein. Je crois que maintenant il y a un accord général là-dessus, et ils l'ont fait en particulier en France massivement par la hausse d'impôts. Le coût en termes de croissance a été extrêmement élevé. Et si vous faites de la comparaison Europe-États-Unis, vous voyez bien qu'il y a une vraie différence et qui vient en partie de ça. Et donc la question se pose à nouveau, hausse d'impôts, baisse de dépenses. Emmanuel Macron a fermé la porte aux hausses d'impôts a priori, mais enfin quand vous regardez, il y a plein de petits impôts qui sont créés, qui sont augmentés.
Le FMI, il y a une ligne de crête un peu space
le FMI
parfois.
Ne ferme pas la porte aux hausses d'impôts. Ils disent, les experts du FMI disent, ce qui est vrai, que la France a des prélèvements obligatoires très élevés. Hein, ça, là aussi, je crois que personne ne conteste ce point. Et que donc, il faudrait peut-être plutôt agir du côté de la dépense que du côté des impôts. Donc, cette question-là, elle n'est pas réglée, elle est importante, et je pense que les économistes ont aussi leur rôle à jouer dans ce débat, parce que il y a eu des polémiques et des débats, je trouve, assez intéressants et assez profonds sur qu'est-ce qui est le plus efficace, notamment en termes de croissance. Est-ce que c'est baisser les dépenses, est-ce que c'est augmenter les impôts? Le FMI avait plutôt été du côté il faut baisser les dépenses, et je trouve que ça se voit dans leur rapport, mais il y a encore des choses à éclaircir avant de trancher ce choix qui est extrêmement important, à la fois économiquement et politiquement.
Et cette question que vous posez, est-ce qu'il faut jouer sur dépenses ou recettes, elle ne se pose pas dans les mêmes termes en fonction des pays. Ça dépend du niveau de prélèvement obligatoire. Quand vous êtes aux États-Unis, vous avez une élasticité fiscale. J'avance, Camille Landais, sur parce que tout ça est un peu lié. Ça a été la semaine de la réforme de l'assurance chômage. Elle est très très critiquée par la CGT, qui considère que c'est la plus dure réforme jamais infligée sur l'assurance chômage. Les arguments s'entendent pour dire que c'était pas le moment, parce que le taux de chômage est plutôt orienté à la hausse, que l'UNEDIC est en excédent. Selon vous, est-ce qu'elle est justifiée et utile, cette réforme de l'assurance chômage? Parce que ça fait partie des réformes structurelles qui sont visibles depuis l'extérieur, notamment depuis chez Standard & Poor's, pour donner une impression, ou en tout cas une image de sérieux.
Bon, alors, ça nous ramène à la question, effectivement, si on veut consolider nos finances publiques, quel type de réformes structurelles on fait? Et c'est vrai que, naturellement, on peut se poser la question d'un certain nombre de politiques, de l'emploi, ou les retraites, le système de retraite, enfin, toutes les...
Retraites, on vient de le faire. Donc.
Oui, enfin, bon, on peut reposer toutes les questions...
Assurance chômage aussi, hein.
Oui, c'est vrai. Assurance chômage aussi, oui.
Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça paraît pas absurde en soi de poser la question de quelle réforme on peut faire qui maximise nos effets sur l'emploi, sur les recettes fiscales potentielles, ce genre de choses. Ceci dit, plusieurs points sur cette réforme de l'assurance chômage. Je pense que oui, effectivement, il n'y a aucun consensus parmi les économistes pour dire que aujourd'hui, il y avait une urgence absolue pour agir spécifiquement sur l'assurance chômage. On a fait déjà beaucoup de réformes, jusqu'à très récemment, et on a éliminé la plupart des dispositions qui, dans notre système d'assurance chômage, nous rendaient particulièrement différents des autres, ou étaient assez, de manière évidente, probablement source de peu de retour à l'emploi, ce genre de choses.
on est quand même encore un peu différent de la moyenne des pays de l'OCDE. Mais bon, on a effectivement normalisé certaines choses. Et donc, oui.
Maintenant, l'autre point, c'est que si on veut, du coup, faire cette réforme de l'assurance chômage, avec en tête l'idée qu'on veut maximiser les effets sur l'emploi, il faut se poser la question de où sont les paramètres qui vont avoir les effets les plus importants sur l'emploi.
On le sait,
C'est
la durée d'indemnisation qui a le plus d'effet sur le retour à l'emploi, plus que les conditions d'accès.
Alors oui, plus que les conditions d'accès, ça on le sait. Donc c'est déjà. Mais le problème, c'est que les conditions d'accès, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup dans le très court terme, mécaniquement très vite.
Donc
danger de cette réforme, c'est de vouloir en faire une réforme d'économie sur le dos de populations qui ont pas forcément voix au chapitre parce que dans l'économie politique de la Macronie, c'est pas celles qui ont le plus de poids. Et avec pour danger, le fait que mine de rien, c'est aussi des populations qui, ça nous ramène à cette question des multiplicateurs, c'est des populations, les jeunes, les gens qui ont peu d'accès au marché de l'emploi et qui du coup vont pas avoir les durées d'éligibilité nécessaires. Ce sont des gens qui en général ont des propensions marginales à consommer très élevées. Quand vous leur prenez des allocations chômage, ça joue énormément sur un niveau de consommation. Donc voilà. Il y a un certain nombre de choses qui, dans cette réforme, ne sont pas complètement...
Vous n'êtes pas totalement convaincu que c'était le moment et qu'il fallait...
Oui, en tous les cas, que si on affiche des objectifs qui sont très clairement « on veut maximiser l'emploi », ce n'est pas forcément les mesures que j'aurais choisies.
Bon, objectivement, maintenant, le gouvernement n'est plus tellement si affirmatif quand on lui dit... J'avais eu cet échange avec Gabriel Attal... Il m'avait posé la question, mais vous savez pourquoi on fait cette réforme ? Comme je savais qu'il allait me dire retour à l'emploi, moi je lui ai dit faire des économies. Bon, maintenant, objectivement, les deux lièvres sont clairement là, il n'y a pas de problème. Ludovic Subran
Moi je trouve que réformer la réforme...
Réformer la réforme, c'est ça,
retournement de cycle, c'est débile, mais voilà. Ouais. C'était pas l'esprit de la réforme, je crois que Philippe Aguillon, qui a quand même un peu... Enfin, Alexandra Roulet, des gens qui savent un truc ou deux là-dessus... avait conseillé cette réforme. Elle avait cette idée, c'était justement en période d'expansion de cycle de pas indemniser de trop. Ok. Maintenant, on est plutôt avec un chômage qui rebique. C'est pas le moment de la rechanger. En termes de prévisibilité, Camille parlait de la propension marginale à consommer. Moi, je suis très inquiet de la faculté d'épargne de ces gens-là et de l'autre côté de l'épargne de précaution que ça peut générer chez des gens qui sont peut-être dans une situation d'instabilité d'emploi. Donc, je trouve que, pour des pouillèmes en plus.
Qu'est-ce que vous appelez des pouillèmes ?
C'est pas ça qui
va
faire.
Quand on passe de 6 à 8 mois sur 20 mois.
Mais c'est pas ça qui va faire baisser le chômage à 5%.
Non.
Parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même ça. On est à 7, ce qui est génial. Franchement, alors ça, on peut dire
hands down.
On est à 7,2 ou 7,3, ce qui est OK. Mais on veut aller à 5. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va aller à 5. Je pense qu'il y a plutôt un choc de formation, qualification, intermédiation.
Ouais,
il y a un truc qui s'appelle
hier.
Les politiques actives de l'emploi, qui, à mon avis, alors pour le coup, le coût efficacité est plus compliqué, mais je m'inquiète plus de ça que de cette réforme-là.
Pour éviter de se trouver complètement en contradiction avec la parole politique, il a été indiqué par Catherine Vautrin que la fameuse durée d'indemnisation, qui est quand même a priori ce qui est le plus efficace en termes de retour à l'emploi, ne serait modifiée que si on arrivait à 6,5 de chômage. Voilà.
Ça me rappelle.
Ça vous rappelle quoi ?
2017.
Quoi, 2017 ?
L'inflexion de la courbe.
Ah oui, oui, oui. Ah, mais ce qui est dingue d'ailleurs, c'est que François Hollande, quand il arrive à la fin de son mandat.
L'effet Godart, on appelle ça.
À la fin de son mandat, la courbe s'était inversée. Mais pas de manière assez puissante pour que ce soit visible et palpable par tout le monde.
C'est très compréhensible.
Bon, Jean-Marc, un mot sur cette réforme de l'assurance chômage, je crois que.
Rien de plus. Dans l'absolu, il est légitime de se poser ces questions, surtout quand on fait, y compris tout de même quand on fait des comparaisons internationales sur les durées d'indemnisation, les conditions, etc. Dans l'absolu, c'est des questions légitimes, mais on ne vit pas dans l'absolu, on vit dans le relatif. On a fait une réforme il y a un an. On disait exactement l'inverse. On disait quand le chômage se retourne, il faut plutôt être plus coulant. Et là, on dit on va resserrer maintenant, alors que c'est le chômage qui remonte. Donc, dans l'absolu, bonne idée. En relatif, et quand on regarde dans le cycle politique, ça paraît délirant.
Parce que Camille a raison. Hein, l'UNEDIC a publié cette semaine une étude d'impact sans connaître vraiment encore les paramètres qui allaient évoluer. Et ils indiquent que c'est a priori les moins de 25 ans et ceux qui sont en CDD ou en intérim qui sont les premiers concernés. C'est sûr que ce n'est pas les populations les plus employables et les plus et les plus préservés. On va marquer une pause. On va évoquer la France et l'Allemagne. Emmanuel Macron se rend en Allemagne. Alors, il y a plein de sujets. Il y a déjà, quelle doit être la doctrine européenne face aux concurrences objectives qui nous viennent des autres grandes puissances du monde. L'histoire de l'union des marchés de capitaux. On pourra en parler, Camille Landel. Les fusions bancaires transfrontalières, sujet qui est né de l'interview d'Emmanuel Macron lors de Choose France chez Bloomberg. Bon, il a pris ses distances en disant qu'il n'avait pas voulu citer Société Générale, que c'était un cas comme un autre. Voilà, un exemple, un cas générique. Et voilà. Et puis Ursula von der Leyen, je vous le rappelle, a indiqué cette semaine qu'il y aurait bel et bien des droits de douane plus élevés sur les voitures électriques chinoises si les enquêtes européennes confirment qu'il y a des aides publiques en Chine illégales. Et la Commission se prononcera le 5 juin. À tout de suite.